parlais de l'entreprise de cartes de hockey. La première vraie entreprise avec pignon sur rue, c'est une entreprise en informatique.
Oui,
effectivement. Et pour se lancer, tu as vendu ta Porsche.
Oui, en fait...
Est-ce que c'était dur, ça, de prendre cette décision-là d'abord?
Non, ben, parce que autant que j'aime les voitures, autant que je suis pas matérialiste, donc justement, on en parlait en s'en venant ici. Là, j'ai reçu hier ma nouvelle Bentley Bentayga, qui est une des quatre au Québec. Donc... qu'est-ce que je disais, c'est que j'adore les voitures, mais du jour au lendemain, si j'avais plus les moyens, mettons, de m'acheter des voitures de ce genre-là, ça me dérangerait pas du tout. Là.
Donc, tu te lances en informatique parce que c'est l'entreprise en devenir qui va grossir de plus en plus et tu décides de tenter ta chance?
Oui, en fait, je suis souvent le « just in time ». Donc, quand il y avait les cartes d'hockey, ça a duré, la mode des cartes d'hockey.
Oui, c'est en plein dans ce temps-là, les années 90.
A duré 2 ans. Tout de suite après, de 15, 17 ans, il y avait la mode des vêtements avec des équipes de sport américaines. Ouais. J'étais dans ce mode-là aussi. Tout de suite après, l'informatique commençait. Donc, on commençait à parler... en fait, l'Internet n'était pas réellement pour monsieur, madame, tout le monde. C'était plus les universités et l'armée ouais. américaine. Puis moi, j'ai commencé à partir un BBS. Un BBS, c'est comme Internet, mais avant Internet. Donc, les gens se loguaient de chez eux avec un modem, puis par la ligne de téléphone. Puis de là, ben, ils pouvaient communiquer avec d'autres, échanger des logiciels et tout ça. Et le BBS m'a permis de comprendre qu'il y avait un énorme marché de personnes qui cherchaient à acheter des produits informatiques. Et c'est là que j'ai vu l'opportunité et la mode grandissante de l'informatique s'en venait. Puis j'ai décidé de me lancer à commencer à vendre des produits informatiques. Tout d'abord par la Poste, par Poste okay. Canada, Bureau Later, etc., UPS. Et par la suite... La demande était tellement forte que j'ai décidé d'ouvrir un magasin informatique, puis un autre, puis un autre, puis un centre de distribution par la suite. Donc, c'est comme ça que j'ai réellement parti un vrai commerce, effectivement.
Mais d'amener des gens dans son magasin, c'est pas évident. Ça, tu l'apprends assez vite dès le départ. Alors, ouais. tu décides de t'inspirer de ta mère, encore une fois, qui économise en découpant des coupons ou en tout cas en essayant de sauver de l'argent un peu partout. Et tu fais du « loss leader ».
Ouais, ben en fait, sans le savoir, là, le fait de voir ma mère économiser tout le temps puis essayer de dealer partout où ce qu'elle va acheter des trucs, me fait prendre conscience éventuellement que l'importance du prix, des gens sont prêts à se déplacer de loin pour sauver des sous. Okay? À partir de là, j'ai décidé de prendre un produit vedette qui était les disquettes, que c'était un produit de volume, et des ventes à mon cost et souvent en bas de mon cost.
Okay? Donc, tu perdais de l'argent concrètement
sur
les disquettes.
Des fois, oui, 5, 10 sous, 15 sous. Mais j'avais un volume énorme. Donc, du jour au lendemain, à travers le Québec, j'étais connu parce que les gens venaient de partout. Là, de la Gaspésie, du cœur, la Beauce, de Québec, de partout, pour venir acheter des disquettes. Mais bien évidemment, ils se déplaçaient pour ça. Mais en même temps, ils achetaient d'autres choses. Ils achetaient des choses pour leurs amis, cousins, famille, peu importe. Donc, ça finissait qu'ils venaient pour ça, mais je leur vendais un paquet d'autres trucs par la bande. Donc, du jour au lendemain, mon chiffre d'affaires a explosé, puis j'étais connu, reconnu à travers le Québec.
Est-ce que c'est à cet âge-là, avec cette entreprise-là, que tu t'es dit que ça allait être ça ta vie, que tu allais être un homme d'affaires, ou c'était pas encore clair?
Ben, je pense que je le sais depuis toujours, là, okay. depuis que je suis jeune. À l'école, un peu dans le livre, on le voit, là, je me suis fait mettre dehors de 2 écoles. Ouais. Pas parce que j'étais pas bon, parce que je m'ennuyais à l'école. C'est souvent le cas de plusieurs petits garçons là, à l'école. Quand un homme entrepreneur restait à l'école, puis regarder, puis étudier, c'est pas toi. Moi, je voulais bouger, je veux faire de grandes choses, puis l'école, ben, ça allait pas assez vite à mon goût. Donc, oui, j'ai toujours voulu être entrepreneur, mais j'ai jamais vraiment su dans quoi, sauf que je fais du just-in-time. Donc, je vais d'après les marchés, d'après qu'est-ce qui s'en vient, etc. Donc, aujourd'hui, ça fait depuis 98, je suis dans l'immobilier. Mais depuis 98, l'immobilier est en croissance. Ouais. Donc, puis à partir de là, comme dernièrement, j'ai parti des vélos en libre-service, un peu comme Bixi, mais beaucoup mieux. Mais le marché du vélo en libre-service, c'est 5 milliards dans les prochains 3 ans. Donc, je vais dans des marchés porteurs, des marchés qui grossissent, qui sont l'avenir, puis c'est ça que je fais. Là.
L'entreprise informatique est restée dans la famille longtemps. Tu l'as vendu à ton frère après 7 ans, qui lui-même, après 7 ans, l'a vendu à votre cousin,
Oui, exactement. Exactement.
Est-ce qu'il y avait une fierté de voir que ça restait dans l'entourage?
Oh oui, absolument. Quand on a, c'est mon bébé, hein. C'est mon bébé. Donc, c'est certain que de le vendre à mon frère, puis qu'il a continué pendant 7 ans, écoute, c'était, pour moi, c'était le fun, là. Puis les gens, en fait, tous les clients et les fournisseurs aussi étaient contents. Donc, oui, c'est une fierté.
Un dossier dont on a entendu beaucoup parler, t'en parles dans le livre, évidemment, c'est la saga de l'île Charon. Ça faisait quoi de retourner dans cette histoire-là, même si elle n'est pas encore tout à fait finalisée, là, de retourner écrire cette histoire-là, même si ça a été un coup dur pour toi?
Mais en fait, j'aurais pu écrire un livre complet.
C'est juste sur cette histoire-là.
Oui, oui. Ouais. Il y a eu beaucoup, beaucoup de rebondissements à travers ces 4 années et demie, 5. C'est incroyable comment qu'un gouvernement peut tout faire pour anéantir quelqu'un. Quand c'est arrivé l'histoire, c'était en 2007. Peu de temps après, j'avais tous les départements du gouvernement qui étaient après moi pour tout vérifier mes comptes, si j'avais payé des DAS, les taxes, TPS, mes impôts. Ils ont fait une étude économique sur ma vie, donc pour savoir si je déclarais pas assez, etc. Et ils ont tout fait pour m'anéantir. Puis c'est un peu comme la mafia légale, que je peux dire. Donc, je pourrais écrire vraiment un livre sur ces 4 ans et demi-là qui ont été très, très difficiles. Parce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ont pris presque 3 ans avant de commencer à vouloir régler. Parce que eux avaient découvert avec leur vérification que j'avais pas les reins assez solides pour passer à travers. Donc, probablement que j'aurais fait faillite. Bon, c'est mal me connaître puisque j'ai réussi à passer durant ces 4 ans-là. Mais il a fallu que je travaille puis que c'était pas évident. Puis, je me souviens, ma mère habitait avec moi puis ça la stressait. Puis, moi aussi, même si ça paraissait pas. Donc, j'ai réussi à passer à travers. Puis, à la fin, ils ont pas eu le choix de négocier et de me payer, de faire une offre qui a plus ou moins d'allure, mais que j'ai pas eu le choix d'accepter puisqu'il y avait le gros bout du bâton.
Sinon, tu perdais tout.
En fait, c'est que je l'aurais continué à garder, mais il m'aurait jamais donné les services d'aqueduc et d'égout. Donc, sans ça, le terrain vaut rien. Là. C'est un plus beau terrain du monde, puis tu peux pas le vendre parce que t'as pas les rues, puis tout ça. Ça vaut rien, là.
Est-ce que ça a été une leçon en même temps? Est-ce qu'on apprend quand il arrive des choses comme ça?
Ben, on apprend que même malgré les bonnes volontés, parce que dans le cas de l'île Charon, je voulais devenir le promoteur le plus développement durable au Québec, puis tout le projet, je l'avais brandé comme ça. Encore aujourd'hui, plusieurs années plus tard, il n'y a aucun projet qui est aussi développement durable. J'avais des techniques, des technologies complètement flyées à cet endroit-là. Puis malheureusement, ils ont enlevé mon côté bucolique que je voulais donner à cet endroit-là. Puis, à partir de là, c'est sûr que c'est un déchirement pour moi, mais faut pas penser à ça. Faut voir l'avenir, puis laisser tomber les trous de noirceur, puis avancer vers l'avenir, là.